Bon, je commence de mots. Donc, c'est un site qui a été développé par un chercheur de l'EFIO. Je ne connais pas vraiment le projet. J'avais demandé au chercheur de venir me présenter. Il n'est pas actuellement en France. Il est en Indonésie, donc il ne pouvait pas. Je posais la question s'il y avait un de ses collaborateurs qui puisse venir, mais il n'y en avait aucun disponible. Je trouvais que c'était quand même important que je vous le présente. Je ne vais pas rentrer dans les détails, donc je vais juste vous présenter un tout petit peu le projet et le site. Et après, si vous êtes intéressé, peut-être qu'en partant de ce que je vais vous montrer, on va peut-être commenter avec Lou l'usage qu'ils ont fait de la théorie dans ce site.
Ça, c'est cruel.
Mais
ils sont pas là pour se défendre, c'est pas gentil, ça.
Non. Mais pas critiquer. Juste voir comment ils vont l'utiliser dans leur site, oui. C'est tout. Je ne permettrai jamais de critiquer. Alors...
Ce serait un texte, test intéressant.
Voilà. Voilà. Il a détecté le matériel. Là. Donc, le site s'appelle le corpus des inscriptions du Champa. Alors là, c'est pas du tout comme le mien. Où est-ce que j'affiche le...
En bas à gauche.
En bas à gauche, là.
Alors,
là. Donc, le corpus des inscriptions du Champa. Donc ça, c'est une impression d'écran du site. Alors, ce projet vise donc à retrouver, préserver, étudier et rendre accessible un corpus d'inscriptions de l'ancien Champa, donc qui se trouve dans l'actuel Vietnam, écrit en sanskrit ou en cham ancien. Alors hier soir, j'ai appris que le cham ancien devrait être...
C'est juste le système d'écriture.
Oui, oui. Alors, le système d'écriture cham devrait dériver de l'Inde du Sud. Anne Valérie ?
Oui, à la base.
À la base,
l'écriture,
voilà.
Non,
l'écriture.
Oui, les premières inscriptions sont en braille.
Voilà. Donc, ce corpus, ce site, le corpus des inscriptions du Champa, est une publication de l'École française d'Extrême-Orient, mais réalisée en collaboration avec le Institute for Study of the Ancient World de l'Université de New York. Et donc, il a été mené pour l'EFEO par Arlo Griffiths, qui est le responsable du centre EFEO de Jakarta, et pour l'ISA, par Tom Elliott. Il y a eu d'autres collaborateurs comme Amandine Le Poutre, qui a été boursière de l'EFEO spécialiste du Vietnam, William Southworth de Rijksmuseum d'Amsterdam et Tan Pan qui ont fait le travail de prospection et estampage. Mais aussi, donc, l'EFEO a financé le travail de spécialistes de l'estampage qui venaient du musée national du Cambodge et un financement, disons, privé de la Toyota Foundation a permis à Hugh Kailas de l'ISAF de développer le site en question. Donc, en 2009, l'EFEO lance ce projet afin de renouer avec la tradition des inscriptions qui avait démarré au début du XXe siècle. Donc le but du projet, c'était d'une part de continuer l'inventaire des inscriptions du Champa compilé par Georges Sédès. Donc c'était un inventaire qui, au cours de disons 40 ans, au tout début du siècle, avait fait l'inventaire de plus de 200 inscriptions. Et que travail qui avait été arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale et avec les guerres d'indépendance et la décolonisation. Donc c'était un travail qui était plus ou moins arrêté. Et donc le but c'était de reprendre ce travail. Mais aussi de publier les textes des inscriptions et leurs traductions, surtout les inscriptions qui n'avaient pas encore été publiées. En essayant aussi de revoir les éditions et les traductions précédentes, donc publiées précédemment par Sédès ou autres, et publier tout ce grand corpus. Et les publications devaient être en deux formes différentes, donc en papier sur des revues spécialisées, françaises, anglaises ou vietnamiennes, mais aussi électronique par donc la mise en ligne de ce grand site qui va présenter les versions les plus récentes de ces inscriptions. Donc pour ce faire, les chercheurs se sont appuyés à la fois sur la méthodologie traditionnelle de la recherche épigraphique, mais aussi sur les méthodes modernes d'encodage des textes. Donc pour chaque inscription, ils ont détecté par exemple des erreurs de déchiffrement, des erreurs typographiques, mais aussi ils ont indiqué des interventions éditoriales, des indications sur les doutes de déchiffrement. Et dans ce corpus publié en ligne, l'utilisateur pourra donc pas à pas vérifier le travail d'édition fait par les chercheurs par la documentation visuelle, c'est-à-dire par des photos qui vont s'afficher. Et il aura accès donc aux traductions en anglais ou en d'autres langues modernes, avec un support de notes et commentaires. Et donc, comme je vous le disais aussi, par la méthodologie de l'épigraphie digitale, donc il travaille sur Epidoc, donc c'est un logiciel.
Non,
c'est pas un logiciel. C'est pas un logiciel.
J'aurais dû faire mention de ça.
Voilà.
C'est un très bon exemple d'un communauté spécialiste dans un domaine scientifique qui se sont servis de la théorie pour définir le méthode de travail.
D'accord.
Alors c'est ce qu'on appelle une application théorie.
Application théorie. D'accord. Et donc là, justement, application TEI, surtout dans les domaines de l'épigraphie grecque et latine, c'est ça ?
Oui.
Donc ils sont servis de ça pour l'appliquer au domaine de l'épigraphie, donc TAM. Donc tous les documents présentés sont ceux dont on a le copyright, donc dont les FEO a le copyright, sont sous licence Creative Commons, et les inscriptions donc sont encodées en TEI. Le site internet est celui-là, si vous voulez le noter, c'est www.fo.fr/inscription/champa. Donc, je vais juste faire un tout petit tour du site. Alors, qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour... Encore. Donc voilà le site. Donc il y a une petite présentation ici en page accueil avec les dernières actualités sur le projet de recherche, un historique du projet de recherche avec donc une explication de la méthodologie, les credits, donc les remerciements, mentions de collaborateurs. Et voilà. les inscriptions, donc chaque inscription est présentée avec son numéro C, donc c'était le numéro d'inventaire que CEDES avait donné dans son inventaire des inscriptions du Champa. Un numéro d'inventaire qui n'était pas que un numéro d'inventaire, c'était un numéro d'inventaire sous lequel on trouvait plein d'autres informations. Donc apparemment la datation, le lieu de retrouvement de la stèle, où il était conservé l'estampage de cette stèle, etc. etc. Donc plein de renseignements sous ce numéro très important. Donc ici, donc, on a le numéro C avec le nom de l'inscription. Oh, il est très moche. Pourquoi j'ai cliqué sur la première ?
T'as vu comment ça rend tes caractères ?
Ben oui, c'est ça. Mais normalement, ça marche bien. Hein.
Non, c'est une question de...
Je crois que c'est l'affichage, oui. C'est l'affichage de... Donc, on va aller à affichage.
Affichage.
Codage. C'est bon ? Ça va aller. Entre, c'est pas encore bon, c'est pas grave. Donc c'est ici, mais c'est pas encore ça. Hein. Pardon ? Oui, bon, c'est pas grave. Je vais juste. Si, je crois que je vais passer par Firefox parce que il y a pas, même pas les zooms du. Alors, pardon, excusez-moi. Ah non, pas pourquoi publication. Voilà. Donc, inscription. Voilà. Donc, la photo peut être agrandie. Hein, on peut. Je pense que les spécialistes peuvent déjà, à partir de ça, commencer, pouvoir lire. Et il y a tout un appareil de explication du texte. Alors là aussi, l'affichage doit être en code. Que je vais donc vous détailler tout de suite. Il y a la transcription ici. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, c'est la transcription de l'inscription, des notes, les traductions en anglais, en français, des commentaires, de la bibliographie secondaire, etc. Et ceci pour chaque inscription. Nous avons ici aussi bon, une partie bibliographie. À chaque fois qu'on clique sur une note bibliographique, une référence bibliographique, on tombe là-dessus. Et puis, un volet de recherche. Voilà. Donc, juste deux petits mots sur la numérisation. Donc les inscriptions, une fois estampées, photofrappées. Voilà, vous ne savez pas ce que c'est la photographie, mais c'est quelque chose vraiment très technique. Donc, avec un frappoir digital... Donc, sont photographiés donc à l'aide d'un appareil photo en 300 DPI. Il y a un exemplaire donc un TIFF pour la conservation qui est stocké chez Humanum et les copies de consultation donc transformées en JPEG 300 DPI qui sont disponibles à l'EFEO, à la bibliothèque. Et les images sur le site et sont donc réduites à 72 DPI pour l'affichage. Et donc chaque image s'affiche dans cette visionneuse que je vous ai montrée tout à l'heure. Et encore une fois, donc chaque inscription est présentée plus ou moins en gros en 6 parties. Il y a la présentation de l'inscription avec la mention de son support, les informations sur le texte, la date, l'origine, etc. La transcription, des commentaires, des notes, une bibliographie secondaire si elle existe ou pas, et d'autres notes ajoutées par donc les chercheurs. Donc ça, c'était donc c'est un exemple, comme je vous disais, donc les informations sur le texte, l'origine, la date, etc., la transcription, les traductions et les commentaires, les notes, etc. Et ça, donc, c'est a priori la TEI que Arlo Griffith m'a envoyée. Alors, ce que j'ai fait, moi, je l'ai découpé un peu. Alors, donc, il y a un message d'Arlo Griffith que je ressentais ici. Et c'était « Les experts de TEI constateront que notre encodage du texte sous la Div Type Edition est encore très léger. Nous ne sommes pas encore aventurés à encoder des noms propres, des chiffres, etc., pour ne pas parler d'encoder chaque mot, ce que font certains projets. » Ça, il l'a dit parce qu'il avait très très peur que... qu'ici il y ait des grands experts à part nous qui allaient dire « Oh, bah, ils sont nuls, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. » Donc c'était un peu pour dire « Voilà, on est quand même quelque part à la phase, au début de ce projet. » Donc moi, c'est ce que j'avais fait, c'est chez de découper à la fois le code et la partie sur le site qui était intéressée. Mais si vous voulez, Lou, on peut aller directement sur le site, afficher le code source et puis voir comment il a fait. D'après ce que je peux voir ici, à mon avis, ce qu'ils ont fait, c'était juste de... comment je fais en arrière? Là. Voilà. C'était de marquer les paragraphes, donc avec une balise P, marquer des liens vers la bibliographie, et c'est tout. J'ai l'impression. Ici, donc, c'est la transcription de l'inscription. Donc là aussi, donc il y a une liste, 1, 2, 3, 4. Alors j'imagine que ça correspond, on ira voir tout à l'heure, j'imagine que ça correspond aux lignes de l'inscription. Et c'est tout.
Non, il y a aussi le PC.
Le PC.
Oui.
C'est où le PC?
Au début du premier ligne, vous avez les
PC, oui, PC. Oui.
De dire signe de ponctuation.
Ponctuation, d'accord. Donc les trois barres,
oui.
C'est un signe de ponctuation, d'accord.
Alors, ah, ça c'est plus
pardon.
Visible.
Oui, ça c'est plus visible. Ça c'est la, donc, la traduction, mais là il n'y a que un paragraphe.
Je peux le faire une remarque.
Oui.
Ok.
Oui.
J'ai noté que ici vous voyez bien. Il y a des comment vous dites ça, des parenthèses,
des
chevrons. The in the year of and the waxing fortnight.
Ah,
okay.
Non,
des parenthèses.
Oui,
c'est
des parenthèses.
Ok. Et en bas, vous avez des parenthèses d'une autre manière.
Oui, il y a
des crochets. Pourquoi?
Je pense que c'est une façon de. Les carrés, c'est pour dire, pour ajouter quelque chose. En Valérie, tu vas...
Là, on est dans les traductions, donc c'est complètement différent. Quand on met du crochet droit en traduction, c'est rajouter des éléments qui permettent de mieux comprendre la phrase.
Le texte.
Par contre, quand on est directement dans le texte, le crochet droit remet des lettres qui manquent parce que c'est effacé dans le texte, mais qui sont resubstituables.
Absolument, mais on ne parle pas de ça.
Oui.
Dans ce cas-là, dans ce cas contraire, je vois que il y a un crochet comme ça pour « year of » et il y a une parenthèse pour « the image of ». Pourquoi ?
C'est peut-être une coquille.
C'est une coquille. Ah. Ok. Alors, et bon, c'est pas pour critiquer, mais c'est simplement pour dire que ça, c'est une conséquence du fait qu'ils ont cassé un des commandements théoriques. Alors, il y a des commandements théoriques, c'est moi qui les ai inventés, personne ne m'écoute jamais. Alors, le premier commandement, c'est « Thou shalt have no other encoding scheme beside me ». Ça veut dire « Tu n'auras pas d'autre système d'encodage à part moi », le théorique. Et c'est cassé, c'est... Non, on dit cassé pour un commandement. Ok, ce n'est pas respecté, c'est ça. Dans ce cas, parce que les crochets là sont un encodage. Mais ce n'est pas un encodage théorique, c'est un encodage conventionnel. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce que Year of the and the Image of sont pareils ou non?
Non. Mais par contre, du coup, supposons qu'on décide de ne pas mettre des crochets, mais justement de mettre une balise pour définir que c'est un ajout, mais quoi comme balise?
Add. Il y a une balise add pour ajout.
D'accord.
Après, qui permet donc de définir qui est responsable de l'addition, est-ce que c'est une addition certaine, la date de l'addition, beaucoup d'autres choses.
Oui, donc en fait...
Mais c'est pas grave. Hein.
Non, mais je pense que c'est là où on voit que le codage est encore assez... Oui, non, mais là, on voit rien. Peut-être que si on prend le... Vous voyez pas beaucoup.
Je vois très clairement. Ouais.
Donc ça, c'est la note. C'est une petite note qu'on a. Et là aussi, donc, qu'est-ce qu'il
non,
y a?
Non, c'est plus que ça. C'est un appareil critique.
C'est un appareil critique, oui.
Ça dit que la lecture 913, c'est la lecture choisie. C'est indiqué avec l'EM, pour l'EM. Oui. Et au-dessus, vous voyez deux autres lectures possibles, soit 917 ou 713.
Ouais.
917, c'est le leçon de Gozio.
Ouais.
Ok. Alors ça vous permet de dire qu'il y a une variation ici. Et voici les choix qui sont disponibles.
D'accord.
Et en plus, vous avez une annotation pour expliquer pourquoi on dit que M. Goldseo est vraiment stupide, que c'est pas possible.
D'accord. Et aussi là, quand on met Finot, donc l'EM, on fait référence à Finot 1904, B. Donc ça veut dire qu'on prend la lecture... donné par Finot dans la référence bibliographique du 1904B et non pas celle toujours de Finot donnée ailleurs. C'est ça?
C'est juste.
Voilà. Donc, note. Et la note explicative. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Si vous voulez, on va regarder. Donc, cette inscription, c'est la 75. Vous voulez que j'augmente un peu la taille? Non, ça va aller. Donc, comme je vous disais, tout ça, donc c'est les informations sur l'inscription. Donc, nous avons le support.
Si tu veux regarder le texte vraiment, tu vas en bas de leur texte et il y a Epidoc. Tu cliques dessus et là, tu as vraiment tout l'encodage.
Alors, attends.
Tout en bas de la page.
Tout en bas de la page.
Voilà. Et là, tu cliques.
Epidoc.
Downloads, voilà. Et là, tu vois tout apparaître.
Ah, mais c'est bien, j'aurais dû t'appeler hier.
C'est bon, c'est bon, c'est fait, là.
Voilà. Donc,
Le tiret à gauche.
Le tiret à gauche, je peux fermer. C'est
tu
ça?
Tu peux fermer pour avoir une idée de la structuration.
Alors, on fait déjà ça, header.
Tu cliques et
il y a
évidemment sur le texte.
Okay.
Voilà. Là, vous avez un document théorique complet avec ces trois parties.
Le header.
Ouais. Le header, ça contient les métadonnées.
Okay. Donc le titre, l'auteur, donc l'autorité, c'est le... Pas l'auteur, c'est le... Oui, le droit d'auteur, le copyright. P, donc ça, c'est pour mettre la licence Creative Commons.
Tu recommences en bas, en quelle
licence ? Pardon ?
Je suis d'accord ici.
Oui.
Mais c'est pas là.
Je ne sais pas comment... Je pense que... Je ne sais pas pourquoi. Arlo Griffiths, à mon avis, c'était l'auteur de la notice. Et c'était peut-être pas là qu'il fallait le mettre. Editor. Arlo Griffiths.
Qu'est-ce que vous avez là? Dans le title statement?
Oui.
Ben oui, ça veut dire que Arlo Griffiths, c'est l'éditeur de ce...
De ça.
De ça.
Vous avez dans le file desk, il y a deux choses.
Ah non, c'est pas...
Il y a la description du fichier, et en bas, vous avez la description de la source du fichier. Et Arlo Griffiths, il est responsable du fichier.
D'accord, non, je me suis trompée. En fait, c'était au niveau du copyright qu'on disait. Pourquoi il y a deux copyrights? Un de Arlo Griffiths?
Oui, non, en fait, il y a ces deux licences qui ne sont pas compatibles, le copyright
et
le Creative Commons. Alors ouais. Après, je ne sais pas si ça s'applique aux mêmes choses. Moi, je n'arrive pas à voir là si je les valide.
Vous êtes sûr de ça? Moi, je ne suis pas expert, mais j'ai cru que dans Creative Commons Attribution, ça veut dire qu'il peut avoir un copyright owner.
Par définition. Je ne sais pas s'il est à 3.0, faudrait voir la version de la licence. Mais par définition, les licences Creative Commons, c'est pas le copyright.
Mais s'il ne possède pas le copyright, il n'a pas le droit de mettre le licence Creative Commons.
Ah bon. De toute façon, le copyright en France, ça n'a pas de valeur juridique. Ben oui, mais justement,
c'est une information.
Oui, mais en termes de licence, ça...
Bon. Je sais pas. Donc ça c'était le file desk.
C'est qui demande donc qui est la source, l'auteur, ça va avec une licence by Creative Commons by. Donc il indique ce qu'il faut marquer. Oui, mais la licence Creative Commons Paternité, etc. C'est moins restrictif, une licence. Ça implique des droits de réutilisation qui ne sont pas les droits autorisés par la licence de copyright.
Et c'est pas une licence le copyright en fait. Le copyright c'est juste une information de qui détient les droits de l'auteur. Et en France, ça n'a aucune valeur. C'est pas une licence.
Donc c'est juste pour indiquer en fait qui
a les droits d'auteur.
La paternité en fait. D'accord.
D'accord. Bon, mais si on descend toujours dans le header, donc toujours sur les informations.
Vous pouvez revenir dans FileDesk.
FileDesk, pardon. Oui.
Ok. Et permet le title statement.
Ok.
Et le publication statement. Okay. Maintenant, vous êtes dans le source desk. Alors, le source desk, c'est là qu'on décrit l'objet qu'on a numérisé. Okay.
D'accord. Donc
et dans ce cas-là, ils se sont servis de la balise, l'élément MS-Desk, qui a été créé pour la description du manuscrit. Là, il ne s'agit pas de manuscrit, mais ils s'en sont servis. Ils s'en sont servis parce que ça permet de vraiment définir un objet physique. Et parce que les manuscrits, ce sont des objets physiques. Ce ne sont pas des objets bibliographiques. Donc, il a tout ce qu'il faut. Par exemple, l'information sur où il est stocké, où il est hébergé, quel est son identifiant au sein de ce dépôt. Le contenu intellectuel de l'objet, c'est MS Content, si tu avances un peu.
Alors, MS Content.
Oui. Ok, si tu avances. Oui. On a le fils desk qui contient la description physique de l'objet et en distinguant, il n'y a que le support. Mais dans le cas d'une manuscrit, vous avez le support et également le layout, ce qu'on appelle, c'est la manière d'affichage sur le support.
Mm-hmm. Donc là, c'est le content, là, c'est fils desk.
Okay. Alors, si vous fermez fils desk, on entre maintenant dans une autre partie de MSTS, c'est le history, c'est l'histoire. Et là, vous pouvez faire des notices sur l'origine, le provenance, et après le provenance, si vous fermez provenance...
Ah non, pardon, provenance.
Provenance, vous fermez ça, et ça...
provenance
ils ont fait une erreur. Non, c'est pas grave, c'est pas grave.
Il y a deux provenances, c'est ça?
Oui, non, on peut avoir plusieurs provenances, d'accord, mais il y a un autre balise qui, où on décrit l'état actuel de l'objet.
D'accord.
On distingue provenance, c'est l'histoire,
oui, ouais,
et actuel, c'est... c'est pas grave. Et finalement, vous avez surrogates. This is how you squeeze it. C'est juste. Okay. Surrogate, ben, c'est pour dire un surrogate, c'est une autre version, mm-hmm, bien sûr. Alors, si vous avez des images, une transcription, ou dans ce cas-là, squeeze. Comment vous dites ça en français?
Robin.
C'est pas un robin, c'est non, peut-être un estampage, je ne sais pas.
Oui, non, c'est un squeeze. Estampage, c'est
vous couvrez. Oui, peut-être c'est robin.
C'est
Vous couvrez l'objet avec quelque chose de plastique, vous mettez un peu de pression, vous avez une copie.
Mm-hmm.
C'est ça. Alors, c'est
papier, nous, on ne fait pas en plastique. Hmm? Papier et encre.
Oui, comme ça. Bon, c'est bien. Alors, il décrit l'estampage.
Voilà. Donc, c'est à bas, c'est ça? Identifier, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Alors, si vous voulez voir l'estampage, il est dans le FAO.
Voilà, 321, estampage 321, numéro 332.
Impeccable.
Okay. OK. Après.
Alors, ça c'est le fin de source test, de MS test, le fin de source test et le fin de file desk.
Alors, la file, pouvez... fin de file desk.
Alors, vous pouvez...
Source.
Oui, vous pouvez fermer le file desk.
File desk. OK.
Très bien. Maintenant, on est dans l'encoding desk. Et bien, ça, c'est une notice sur l'encodage.
L'encodage, donc, épidote, oui, guidelines.
Oui, c'est simplement pour écrire comment on a encodé ce texte.
Mm-hmm.
Et là, vous avez le class depo, et M. AG qui dit « What is the function of this ?»
Si on passe, c'est en vert.
Ah, pardon.
C'est en vert.
Ah, si, OK.
What is the function of this section? Heureusement, il y a quelqu'un qui le sait.
Oui.
C'est là que vous décrivez, vous fournissez une taxonomie des classements quasiment automatiques que vous allez ajouter dans votre description des objets. Dans le cas là, on dit qu'il y a une catégorie photo. Et on définit ici ce que ça veut dire, photo. Est-ce que les photos ne sont que des photos classiques ou des photos numériques également?
Mm-hmm.
Oui, apparemment, il s'agit de photos numériques. Et on distingue les photos numériques des photos estampage.
Okay.
Bah, c'est simplement pour définir sa propre lexique de définition.
Donc,
vous pouvez fermer le terme. Et c'est tout ce qu'il y a dans l'encoding.
Okay.
Maintenant, on a le profile desk. Et là, vous avez des définitions des langues qui apparaissent. Les notices de langue, ce n'est pas des définitions. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a le old cam, le sanskrit.
Le sanskrit.
Le
sanskrit écrit en vieux.
Voilà. Okay. Et finalement, vous avez le revision desk. Là, dans le revision desk, vous avez des notices de révision majeure du document. Simplement
d'accord,
pour indiquer ce qu'on a fait, qui est responsable du changement. C'est bon, hein?
Ok.
C'est trop, même.
Donc, après, on passe facsimile.
Ok.
Et là, donc, c'est les photos, d'après ce que je vois. Donc, je voulais que je remette. Mais non, pas publications. Quoi? Toujours publications. Si vous en avez marre, vous le dites. Moi, je peux continuer avec nous pendant des semaines. Mais,
non,
mais si vous en avez marre, vous le dites.
Encore à peu près 5 minutes.
5 minutes, d'accord. Où est-ce que vous voulez... On va peut-être...
Ça serait bien de finir quand même le final, la description.
Là.
On va pas s'arrêter comme ça.
Finir le déroulé du document théorique.
Oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est ce que je voulais proposer. Ouais. Donc, on a les photos qui sont les deux là. Deux ou trois là. Hein. Après... graphique, donc les photos, Nissan, ben c'est tout.
Tout ce qu'on fait là, l'objet de faire cela, c'est de fournir des identifiants aux photos. Donc le premier, il est donné l'identifiant FAC 1 et FAC 2 et FAC 3. L'intérêt de cela, c'est que s'il y a une partie de l'inscription qu'on veut lier, de la transcription, qu'on veut lier avec son photo, on peut le faire.
On peut faire le lien.
Voilà. C'est ça l'objectif de facsimilé. C'est pour faire la possibilité de lier ensemble une image et sa transcription. Je ne sais pas s'ils ont fait ça.
Non.
Alors, si vous fermez le facsimilé.
Non.
Et vous regardez dans le texte.
On peut faire un développement après, à posteriori, alors.
Ah, ben oui. Bien sûr.
Alors, body.
Alors, vous avez le body qui commence avec le bibliographe. Okay. Vous pouvez fermer ça.
Ça.
Et vous avez l'édition.
L'édition, donc ça c'est la transcription.
Ça c'est la transcription. Alors, si c'était le cas, que vous vouliez, vous voudriez, oui, plutôt, faire le lien entre ça et l'image.
Et l'image.
Vous allez mettre un attribut sur le dit.
C'est parti tout seul.
C'est édition.
Ah, voilà.
Vous allez ajouter là sur...
Par exemple là
Sur le div.
Div.
Sur le div, vous allez ajouter un fax égal...
Ici, à la suite. Oh, pardon. Ah, zut. À la suite des autres balises.
Non. Dans la balise ouvrante.
Oui, c'est ça. Mais à la suite de celle-là.
C'est pas grave, c'est n'importe où.
D'accord.
Et là, vous avez la transcription. La transcription contient un AB, ça veut dire que c'est un bloc de texte. Et vous avez la balise LB pour indiquer le début de chaque ligne.
D'accord.
Vous avez le PC, comme on a déjà dit, pour indiquer les signes de ponctuation. Et vous avez les mots. Et il y a une partie qui n'est pas claire, indiquée par unclear. Vous avez là.
Alors là, je
ne
sais pas. Oui. D'accord.
Ah, au bas.
Le rond.
Oui.
Oui.
Pour revenir sur ce que j'ai dit, sur les gaiji, là, vous avez une instance d'un gaiji. Il y a un fleuron. Dans le texte, il y a qui n'est pas standardisé Unicode, donc on ne peut pas mettre le caractère. Donc on met simplement un G avec un type pour indiquer de quel genre de caractère s'agit-il.
Alors, je ne sais pas, est-ce que il est là, tu vois, en balai
si
si. Ah si si si, ça se voit, oui, ouais. C'est une petite fleur. Là. Oui. C'est ça, hein?
Ouais,
c'est
ça.
Donc c'était pour indiquer ça.
Ça peut être des petites fleurs à quatre pétales.
D'accord. Donc voilà, pour la transcription. Apparatus, c'est quoi apparatus? L'apparat critique.
L'apparat critique.
Que Lou a expliqué tout à l'heure. Donc, les traductions. Donc, en anglais et en français. Donc, là, on a que des distinctions de paragraphes, des subdivisions de paragraphes. Et. Ah non, qu'est-ce que. Pourquoi il y a anglais-français? Ah oui, d'accord. Et ça, c'est la française, oui. Commentaire. Donc, une note avec un lien bibliographique. Et c'est tout. Et c'est tout.
Impeccable.
Voilà. Voilà, voilà. Donc, malheureusement, je ne connais pas le projet, hein, mais si jamais vous avez des questions, je vous invite à écrire au responsable, à Arlo Griffith, et puis poser toutes les questions. Merci. Mais merci surtout à vous d'avoir...